VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, 5h30 en temps universel, le monde aujourd'hui, édition du lundi 18 septembre 2017. John Lyndon et Anne Alberson en direct du studio 13 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce matin.
En République démocratique du Congo, Kinshasa invite à la patience et annonce l'ouverture d'une enquête après les incidents meurtriers de vendredi dernier.
Permettez-moi d'être un peu surpris que l'on puisse demander une enquête et en même temps nous donner déjà les résultats d'une enquête qui n'a pas encore eu lieu.
Guinée, le calme est revenu dans la ville de Boké après plusieurs jours de manifestations.
En Côte d'Ivoire, la FESI dénonce le coût élevé des frais d'inscription dans les écoles et appelle à la mobilisation.
Intense activité à l'ONU où le président américain participe à sa première assemblée générale.
Et puis nous retrouverons Élisée Onkpatine pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco.
Mais tout d'abord, le journal.
République démocratique du Congo, Kinshasa a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête après les incidents meurtriers de vendredi entre l'armée congolaise et des ressortissants burundais. Violences qui ont coûté la vie à 38 personnes à Karmayoga dans la province du Sud Kivu, soit 37 Burundais et un officier congolais. L'enterrement des victimes a eu lieu dimanche. Certaines sont présentées par les Nations Unies comme des réfugiés et des demandeurs d'asile. Timothée Donangmai a recueilli la réaction du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
C'est le résultat de l'enquête qui va nous donner des informations sur les auteurs de cette altercation, c'est la patrouille des FARDC et les personnes qui sont mortes ou blessées, et dont les amis ou les partenaires avaient provoqué la mort de l'officier des FARDC.
Donc on parle d'une réaction disproportionnée des forces de sécurité par rapport à des manifestants civils.
Permettez-moi d'être un peu surpris que l'on puisse demander une enquête et en même temps nous donner déjà les résultats d'une enquête qui n'a pas encore eu lieu. Je voudrais vraiment demander qu'on attende l'enquête pour conclure s'il y a eu une réaction disproportionnée ou proportionnée. Ça c'est la conclusion, c'est mettre la vie avant les bœufs.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
L'ex-épouse de Nelson Mandela, figure de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, appelle à un changement de leadership à la tête de l'ANC, le Congrès national africain qu'elle juge affaibli par les accusations de corruption. Dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique paru dimanche, Winnie Mandela souligne que la corruption est le maillon faible de l'ANC.
En Guinée, après plusieurs jours de manifestations violentes contre le manque d'électricité à Boké dans le nord-ouest, le gouvernement a annoncé avoir décidé de faire la lumière sur la mort de deux personnes. Le calme est revenu dans la ville, mais les dégâts matériels sont importants. Précision avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
C'est le ministre guinéen de l'administration du territoire qui a fait le bilan. 2 morts, 70 blessés, dont 14 gendarmes, selon le général Bourima Condé. Le bilan est lourd, conséquence des violences qui ont caractérisé le mouvement de colère. Des commerces pillés, deux camions de la gendarmerie nationale, les locaux de la compagnie départementale de la gendarmerie, des pick-up et des motos ont été brûlés, a dit le ministre guinéen. La liste des dégâts est longue. Le général Condé a aussi fait cas des actes de vandalisme qui n'ont pas épargné le marché central de Boké, le bloc administratif régional et les véhicules de commandement du gouverneur et du préfet. Ces émeutes ont également immobilisé une centaine de véhicules, chiffre donné par le ministre Bourima Condé, des véhicules en provenance de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Le gouvernement promet de faire toute la lumière sur ces émeutes, a indiqué le ministre guinéen de l'administration du territoire. Le général Bourima Condé a aussi dit que 3 groupes électrogènes sont en train d'être acheminés pour rétablir le courant électrique à Boké. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, un grave incendie s'est déclaré au grand marché d'Abobo aux environs de 20h30 hier. L'origine exacte du feu reste pour l'heure inconnue. Selon certains témoins, l'incendie se serait déclenché au niveau des 2 grands premiers pavillons du marché. Les commerçants, sous l'œil vigilant des forces de l'ordre, veillaient toujours au grain en vue de prévenir les vols et faire repousser les badauds devant l'ampleur des flammes particulièrement vives.
Plus de 3000 migrants ont été ramenés à terre par les gardes-côtes libyens en une semaine, tandis qu'environ 2000 autres ont débarqué en Italie, selon un bilan établi hier à partir de plusieurs sources officielles et un média italien. Ces chiffres indiquent que la route migratoire entre la Libye et l'Italie, le pays européen le plus proche, n'est donc pas totalement fermée, malgré la chute spectaculaire du flux des migrants entre ces deux pays.
Et puis, de violents combats ont éclaté dimanche entre une force de sécurité et une milice d'un ex-trafiquant présumé de migrants dans la ville de Sabratha, plateforme libyenne de l'immigration clandestine vers l'Europe, selon un responsable local de la sécurité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La ville américaine de Saint Louis restait dimanche sous tension après l'acquittement d'un policier blanc dans la mort d'un homme noir, verdict qui a provoqué des manifestations et des violences, conduisant à l'annulation de deux concerts ce week-end. Les manifestants, dénonçant un racisme institutionnel, ont annoncé qu'ils entendaient mener des actions de blocage et des rassemblements pendant plusieurs jours pour protester contre ce verdict d'acquittement prononcé vendredi.
Le président américain Donald Trump ouvre ce lundi à New York une semaine d'allocutions, de débats et de rencontres bilatérale entre les 193 membres des Nations Unies. L'Assemblée générale de l'ONU débute par une initiative controversée sur la réforme de l'organisation. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Les discours pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU commenceront demain mardi, mais le ballet diplomatique débute aujourd'hui même à 14h GMT par une cérémonie présidée par le président Donald Trump au cours de laquelle environ 130 pays endosseront une déclaration politique non contraignante en 10 points poussant l'ONU à se réformer. Le milliardaire américain qui avant son élection avait qualifié l'ONU de club où les gens passent un bon moment veut voir ses coûts fortement réduits. Cette approche principalement budgétaire heurte nombre des membres des Nations Unies. Selon certains diplomates, une réduction de moitié par exemple du budget du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, qui dépasse 40% de la contribution américaine, le rendrait inopérant. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est dit prêt à faire des économies, mais le chef de l'Organisation mondiale a mis en garde contre le risque de saper l'efficacité des missions de paix.
Et l'administration Trump a martelé dimanche qu'elle profiterait de l'Assemblée générale des Nations Unies pour exiger la pleine application des sanctions internationales contre la Corée du Nord, menaçant celle-ci de destruction si elle continuait de provoquer Washington et ses alliés.
Le groupe militant palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza depuis une décennie a amorcé une normalisation des relations avec le gouvernement du président palestinien Mahmoud Abbas, une décision favorablement accueillie par le Fatah et l'ONU. Le point avec Timothée Denormaille.
Le Hamas a annoncé la dissolution de son comité administratif mis en place en mars et perçu par le président Mahmoud Abbas comme un gouvernement parallèle. Il a appelé le Fatah à des discussions sur la réconciliation nationale et l'organisation d'élections générales. Avec l'économie de la bande de Gaza en ruine et seulement 4 heures d'électricité par jour, le mouvement islamiste a dit qu'il veut que le gouvernement d'union nationale du président Abbas assume immédiatement le contrôle de ce territoire. Le rapprochement entre les frères ennemis palestiniens fait suite aux pourparlers séparés tenus récemment au Caire par des délégations du Fatah et du Hamas avec les responsables du renseignement égyptien. Israël impose depuis une décennie un blocus naval à la bande de Gaza. De passage le mois dernier, Antonio Guterres avait appelé à la levée de cette mesure, déclarant que la situation dans l'enclave palestinienne était l'une des crises humanitaires les plus dramatiques qu'il ait vues.
À Londres, 3 jours après l'attentat à la bombe dans le métro, la tension est retombée avec une revue à la baisse du niveau d'alerte terroriste. Du côté de l'enquête, les choses se sont accélérées ce week-end avec l'arrestation d'un homme de 21 ans samedi soir dans la banlieue ouest de Londres. Samedi matin, un premier suspect âgé de 18 ans avait été interpellé au lendemain même de l'attentat revendiqué par le groupe État islamique. Attentat qui a fait 30 blessés. Une arrestation jugée très importante par les enquêteurs. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Jacques Aristide.
En Côte d'Ivoire, les travaux d'élargissement du canal de Vridi ont atteint une étape qui permet au port autonome d'Abidjan d'accueillir désormais des navires sans limitation de longueur, écrit Fraternité Matin. Financés et réalisés par la Chine, les travaux au coût de 560 milliards de francs CFA seront complétés en 2019 avec l'approfondissement de la passe d'entrée de ce canal. Démission du patron de la branche sud-africaine du cabinet d'audit et de conseil KPMG, Trevor Hall, a présenté son mea culpa pour un de ses rapports utilisés par le président Jacob Zuma pour justifier le limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan, perçu comme un chantre de la lutte anticorruption. Le départ de ce dernier en mars avait provoqué la chute du rand et une dégradation de la note de l'Afrique du Sud par deux agences de notation financière. Le Kenya a révisé à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2017 à 5,5% contre 5,9% en raison de la sécheresse qui a grandement affecté l'agriculture et de l'incertitude politique. De nombreux investisseurs ont gelé leurs projets après la décision de la Cour suprême d'invalider la présidentielle du 8 août et ordonner un nouveau scrutin. Le gouvernement a réduit ses dépenses non essentielles pour financer cette joute prévue pour le 17 octobre.
À présent, c'est l'heure du sport et comme tous les lundis, on va accueillir Élisée Oumpatine et on commence Élisée par le football. Quart de finale aller des compétitions africaines des clubs. En Ligue des Champions, service minimum pour le tenant du titre.
Les Mamelodi Sundowns ont fait l'essentiel face aux Marocains du Wydad de Casablanca 1-0, but de l'Ivoirien Yannick Zakri. Le match retour garde donc son suspense et puis l'autre match de la soirée d'hier n'a connu ni vainqueur ni vaincu entre les Libyens d'Ali Tripoli et les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, score 0-0.
Il faut dire, Élisée, que la veille on a eu droit aux deux premiers matchs.
Oui, et on a assisté au choc de ces quarts de finale entre Al Ahly du Caire et l'Espérance de Tunis. Au finish, beaucoup de buts, mais pas de vainqueur, score 2-2. Bon résultat pour les Tunisiens, de même pour les Algériens de l'USM Alger, auteur de nul 1-1 au Mozambique sur les terrain de Ferroviario Beira.
En phase aller de la Coupe des Confédérations, on a aussi joué les quarts de finale Élisée.
Le TP Mazembe a pris une sérieuse option avant le match retour en allant battre les Soudanais d'Ali Obeïde 2-1. Le Mouloudia d'Alger a dominé les Tunisiens du club africain 1-0. Mauvaise soirée décidément pour les clubs tunisiens. Défaite également 1-0 de face au Fus de Rabat. Et puis les Sud-Africains du Supersport United ont été accrochés à domicile 0-0 par les Zambiens de Sesco United.
Football toujours avec le tournoi de l'UFOA aujourd'hui. Place à la troisième et dernière journée des matchs de poule.
Et dans le groupe A, le Nigeria est condamné à une victoire face au pays hôte, le Ghana déjà qualifié après deux victoires. L'autre rencontre du jour mettra aux prises la Guinée au Mali, les deux pays toujours en course pour une qualification en demi-finale. Hier dans la poule B, pour le compte de la deuxième journée, le Sénégal s'est relancé suite à sa victoire de 4-0 devant le Bénin. Le Niger garde la première place du groupe après son nul blanc contre la Côte d'Ivoire. La dernière journée prévue demain promet donc.
Afrobasket à présent, l'épilogue de l'édition 2017 et le pays hôte renverse le Nigeria, tenant du titre Élisée.
Oui, après 2011, la Tunisie remporte à nouveau la compétition, cette fois-ci à domicile. Victoire 77-65 face au Nigeria. Le point avec notre envoyé spécial, Amédine Sy.
Les aigles de Carthage ont privé les 10 Tigres d'un second sacre consécutif en s'imposant en finale sur le score de 77-65 au terme d'une très belle rencontre. Pourtant, les champions d'Afrique en titre ont mis en entamé cette finale en remportant le premier quart-temps par 14-8. Mais les Tunisiens vont revenir en force dans cette rencontre en virant en tête à la pause 25-21, soit un petit point d'écart grâce à un tir primé de Ben Radouane. Poussé par le public, les hommes de Mario Palma vont creuser l'écart qui passera d'un point à 12 à la fin du troisième quart-temps. 54-48, le dernier acte ne sera qu'une formalité pour les aigles de Carthage qui vont dérouler leur jeu en enfilant les paniers à l'appel pour s'imposer avec 12 longueurs, 77-65 à la fin du temps réglementaire. Avec cette victoire, la Tunisie écrit son nom pour la deuxième fois de l'histoire après le sacre de 2011 à Antananarivo, Tunis. Amédine Si.
Pour le match de la troisième place, le Sénégal a battu le Maroc 73-62 et se qualifie pour le mondial.
Et on termine cette page des sports par du cyclisme avec la fin du Tour de Côte d'Ivoire, dominé par les Belges.
Il remporte ainsi les trois premières places et c'est Bouvry Deiter qui a été porté par ses coéquipiers au sommet de la compétition en remportant le maillot jaune. A noter que c'est le Marocain Hicham Benouza qui est sorti vainqueur de la dernière étape.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon et Anne Alberson. Cap à présent au dossier du jour. Et on commence par la Côte d'Ivoire, où la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire dénonce le coût élevé des frais d'inscription dans les écoles. La FECI appelle donc à la mobilisation contre ces frais qui freinent, selon elle, la scolarisation de milliers d'enfants. Explication, Georges Ibrahim Tunkara, notre correspondant à Abidjan.
À peine la rentrée scolaire entamée le 11 septembre que l'école ivoirienne connaît ses premiers tumultes. La FECI, la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, s'oppose à la multiplicité des frais que doivent payer les parents pour l'inscription de leurs enfants. Des frais qui ne sont rien d'autre qu'une escroquerie, selon Assif Jean Sassi, secrétaire général de la FECI.
Dans la plupart des lycées et collèges publics de Côte d'Ivoire, après les frais d'inscription de 6 000 francs imposés par l'État, certains responsables d'établissements imposent d'autres frais qui vont de 10 000 francs à 3 000 francs par moment. Pour nous, c'est un obstacle à la scolarisation d'un grand nombre de nos camarades.
À qui profitent ces sommes exigées aux parents d'élèves et pourquoi le ministère de tutelle ne prend-il pas des sanctions disciplinaires à l'encontre de certains établissements? Autant de questions que se pose le syndicat des élèves et étudiants. La ministre de l'Éducation nationale n'a pas mis de temps à réagir à ces accusations. Pour Kandia Camara, les frais fixés par l'État à l'inscription s'élèvent à 6 000 francs CFA.
Les inscriptions se font en ligne dans les établissements secondaires et les frais s'élèvent à 5 000 francs CFA, la carte d'identité scolaire revenant à 1 000 francs CFA, soit 6 000 francs CFA au total par an. Au primaire, les inscriptions restent gratuites. Quant aux cotisations des comités de gestion des établissements scolaires, COGES, elles sont fixées par l'Assemblée des parents d'élèves de chaque école et sont de 3 000 francs CFA au maximum pour le primaire et 5 000 francs CFA au maximum pour le secondaire et par an.
Que disent les parents d'élèves de cette polémique sur les frais d'inscription?
Moi, j'inscris ma fille dans un collège de la place. Outre l'inscription en ligne, j'ai payé 9 800 francs de frais. Et puis, maintenant, pour prendre le billet, on me dit frais annexe 1 000 francs. Ça, ce n'est nulle part. Donc, j'ai payé 10 800, ce qui est des abus, mais qu'ils ouvrent un œil dessus. Sinon, effectivement, il y a un abus. Il y a un petit comité qui s'organise à chaque rentrée scolaire sur la traite.
Selon la FECI, chaque année, ces frais annexes rapportent au moins 20 milliards de francs CFA aux établissements scolaires. La FECI veut donc mobiliser les acteurs du système éducatif contre ce qu'elle qualifie d'escroquerie et de vol organisé et planifié. Assif Jean Sassi, secrétaire général de la FECI.
Nous invitons tous les parents d'élèves et étudiants à aller demander les comptes à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Si rien n'est fait jusqu'au lundi, nous allons tous nous rendre là-bas pour demander les comptes.
Mardi dernier, une mobilisation de la FECI dans la commune de Cocody avait conduit à des affrontements avec les forces de l'ordre. Quant à la ministre de l'Éducation nationale, elle a annoncé son intention de porter plainte pour les casses occasionnées lors de cette manifestation. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, avec la saison pluvieuse, l'assainissement des zones habitées est un véritable challenge pour les autorités et les citoyens. Entre caniveaux souvent bouchés et curage sauvage des latrines, beaucoup d'efforts doivent être déployés par les autorités et les citoyens pour améliorer les conditions de vie. C'est en cela que l'association des vidangeurs manuels à base qui cure les latrines s'est posée comme une solution idéale. Focus sur cette activité avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Depuis 7h du matin, une des équipes de l'association Abaz est sur le terrain dans un foyer moyen. Ils ont été la traîne à curer leur quotidien. En maître d'œuvre, le président de l'association des cureurs manuels de la capitale et responsable de Abaz, Ali Doubandé, estime avoir dompté la honte qui entourait ce métier et l'avoir professionnalisé.
Voilà, c'est une association œuvrant dans le domaine de l'assainissement, plus spécifiquement le cureur des latrines non vidangeables mécaniquement. Donc au tout début, on travaillait dans le noir, se cachait pour faire le travail parce qu'on virait du poté dans les ménages, devant les portes. Maintenant, pour faire ça, il fallait faire la nuit. Et on ne voulait pas se faire voir tout ça. Mais bon, avec un prix que j'ai eu, on a pu avoir deux tricycles. Donc on travaille maintenant dans la journée.
Depuis 2012, à sa création, jusqu'à nos jours, l'association Abaz est passée de 2 à 6 tricycles et joue un rôle de plus en plus crucial dans la société, comme le reconnaît Pierre Tassambedo, client du jour.
En tout cas, j'ai apprécié leur travail. Grâce à eux, nous, on peut assainir. C'est ça, on les appelait pour venir faire le travail là.
Mais cela ne signifie pas pour autant que tout va bien, précise Ali Doubandé.
On partait de poté au bas-fond. Les riverains se sont plaints que l'odeur les dérangeait. Donc, il fallait trouver une solution à ça. Mais bon, nous sommes incontournables, puisque si ta latrine est remplie, le camion vidangeur ne peut pas vider. Donc, j'ai oublié d'appeler les vidangeurs manuels qui vont venir curer et puis maintenant aller jeter. À ce moment, j'ai pris juste 10 personnes. Je les ai tous équipés. Et voilà, l'association a commencé. On a fait le tour de tous les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. On a pu rencontrer plus de 200 vidangeurs manuels. S'ils ont le matériel, ils peuvent travailler beaucoup et puis en tout cas sortir de la pauvreté.
Aujourd'hui, 25 personnes vaccinées et équipées font tourner un service professionnalisé, mais les obstacles sont encore nombreux, comme leurs coûts font toujours l'objet de chaudes discussions. Dans la famille d'Assamedo, on les trouve élevés, témoigne Pierre, le chef de famille.
C'est sûr, c'est en tout cas, travailler comme ça, là, pas moins de 50 000 francs qu'on nous fait. On avait déjà fait 15 000 francs. Bon, comme il y a beaucoup de saletés dedans, c'est ça, on dit qu'on ne peut pas.
Avec des coûts moyens de 35 000 francs CFA par curage pour de la latrine régulière, c'est surtout la charge de travail supplémentaire exigeant beaucoup plus que de nature qui élève les coûts, souligne Ali Doubandé.
Tu arrives, tu essaies de connaître la profondeur de la fosse avant de discuter le prix. Il y a la pauvreté aussi qui est sévie. On sait qu'il y a des ménages aussi, vraiment ça ne va pas. Même si on cherche l'argent, il y a le côté social aussi qui est là.
En plus de beaucoup faire dans le prix social, au vu du pouvoir d'achat très faible de la majorité des Burkinabés, Ali Doubandé et ses hommes se disent très fiers de participer à la protection de l'environnement et surtout à l'assainissement de la ville de Ouagadougou. Ils n'attendent plus qu'un soutien des autorités municipales ou de mécènes afin d'améliorer leur travail. Issa Napo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Congo-Brazzaville, les femmes ont réalisé une percée dans les postes électifs. Deux parmi elles dirigent pour la première fois les conseils départementaux. C'est le résultat d'une sensibilisation accrue autour d'une loi accordant 30% des places aux femmes sur les listes électorales. À Brazzaville, la correspondance d'Nguela Ngousso.
Avec 17 femmes élues députées, alors qu'elles n'étaient que 12 à la dernière législature, la participation des Congolaises dans le pôle de décision progresse. Marie-Thérèse Bouvet, élue au Sénat, estime que le combat pour les droits politiques de la femme congolaise est loin d'être terminé.
Ça, déjà, c'est bon. Parce qu'au départ, on n'était que 12. Là, on vient d'ajouter 2, c'est bon. En tout cas, on est assez satisfait. Le combat, on l'a toujours mené, hein, le combat d'être représenté partout. On ne peut pas baisser les bras. On continuera à mener le combat.
Deux femmes ont aujourd'hui pris la tête des conseils départementaux dans le pays, chose qui était impossible il y a encore quelques semaines. La ministre de la Promotion de la Femme, Nefer Inès Inga, fait un constat mitigé.
Ici est de souligner que l'on enregistre une légère progression du nombre de femmes élues tant au Sénat, à l'Assemblée nationale qu'aux différents conseils départementaux et municipaux. Les résultats, bien que positifs dans l'ensemble, montrent que de nombreux efforts restent encore à accomplir en vue d'une représentativité équilibrée hommes-femmes dans les instances de prise de décision, surtout dans le domaine électif, où le Congo occupe jusque-là la 172e place dans le classement mondial de l'Union interparlementaire.
Plutôt optimiste, Didier Clotaire-Boutindi, chef d'une association politique, appelle les femmes à se lever pour leurs droits.
Si la loi donne 30% aux femmes, ça permet aux femmes de se lever, de dire que non, nous, on doit respecter quand même la loi.
Hein, donc, ils doivent aussi occuper leurs 30%. Donc, il faut plus attendre que ce soit les femmes qui ne parlaient pas hier. Il faut que les femmes parlent aujourd'hui. Hein, la femme doit prendre des décisions elle-même.
Analysant globalement le problème, Rock Eloge Nzobo, un activiste des droits politiques et civiques, indique que c'est tout le système électoral du pays qui n'avantage pas les femmes.
On ne peut pas régler le problème de la femme tant que, justement, on n'en pas sur des bases démocratiques bien définies. Il s'agit des nominations où on décide de qui on peut mettre à telle place. Parce que vous voyez, il y a les forts taux d'abstention. Je refuse toujours de voir la légitimité de ces élections. Et il n'y a pas d'amélioration tant que nous n'allons pas revoir les fondamentaux même des principes de la démocratie, des principes de processus électoral, que ce soit la question des découpages électoraux, la question des listes électorales, la question de la commission indépendante électorale. Toutes ces questions doivent être débattues. À ce moment-là, lorsque nous aurons des résultats, on pourra évaluer de manière objective, de manière concrète.
Avec 246 femmes élues dans les conseils, la participation féminine dans la sphère de décision commence à prendre corps au Congo. Nguela Ngousou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
À présent, je vous invite à enfiler vos maillots et godasses direction le Burundi, où le football reste un facteur d'unité et de réconciliation. Toutes les composantes sociales, Hutu, Tutsi, étrangers, transcendent leur ethnie et nationalité pour se retrouver autour du ballon rond. Dans tous les quartiers et différents terrains éparpillés dans les 129 communes du pays, les amoureux du ballon rond rivalisent de talent, sans haine ni rancœur. Christophe Nkuruziza, notre correspondant à Bujumbura, s'est rendu sur un terrain de football situé dans une commune au nord de Bujumbura. Reportage.
Mardi, jeudi, dimanche et les jours fériés, de nombreux jeunes et des hommes âgés se retrouvent sur le terrain de l'école normale supérieure située dans la zone de Yeusha, en commune urbaine de Ntarangwa, au nord de Bujumbura. Ces amoureux du ballon rond de l'équipe d'amateurs de Gymkhana, toutes ethnies confondues, oublient pendant plus de 3 heures leur querelle ethnique pour s'amuser ensemble, surtout pendant les années sombres de l'histoire du pays et de la balkanisation de la capitale. Cet autre père de famille estime que le football a toujours réuni les Burundais, les étrangers, au moment où le pays était balkanisé.
À un certain moment, il y avait des problèmes ici au Burundi, par exemple. Il y avait des quartiers pour les Tutsis, il y avait des quartiers pour les Hutus. Mais chez nous, nous avons les Hutus, nous avons les Tutsis. Et chaque fois qu'on allait prendre un petit rafraîchissement après le sport, toutes les ethnies allaient le faire dans ce même quartier où les Hutus, les Tutsis adhèrent difficilement. Et chaque personne pouvait attaquer notre coéquipier parce qu'il est de telle ethnie, il était protégé toujours par les coéquipiers. C'est ça l'esprit alors du groupe, l'esprit du sport collectif. Ça, c'est un grand sport pour la réconciliation.
Ministres, gouverneurs, étudiants et chômeurs se rencontrent même aujourd'hui sur ce terrain de football pour pérenniser l'adage selon lequel le foot est rassembleur. Témoignage.
Pendant la crise, l'équipe Gymkhana, tous les joueurs, tous les membres de différentes couches sociales, de différentes ethnies, étaient unis. Il n'y avait pas eu de division entre les joueurs. Donc même pendant la crise, on se réunissait, on faisait des entraînements sans toutefois considérer les ethnies ou les religions. Même aujourd'hui, on continue sur le même chemin. Même aujourd'hui, nous sommes réunis. Une fois vous avez la chance de venir assister les joueurs sur terrain, toutes les couches sont représentées.
Certains footballeurs de l'autre quartier, de l'autre colline ou province ont même aujourd'hui ce sentiment que ce pays de 27 834 km² est un petit village où les plus de 10 millions de Burundais peuvent revivre ensemble pour une réconciliation effective. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique. Notre sujet de cette semaine, est-ce à l'homme ou à la femme de faire la cuisine dans un foyer? Eh, ça va chauffer. Est-ce à l'homme ou à la femme de faire la cuisine dans un foyer? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31 ou contactez-moi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive. Appelez-nous aussi au 001 202 619 31 40. RM Show, c'est ce soir à 20h, temps universel. C'est sur VO Afrique et je vous dis à la Peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Anne Albertson. Greg Burns était à la console. Présentation John Lyndon et Anne Albertson. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente journée à toutes et à tous.